Éric Bataillon.
Bonjour. Les forces combattantes de l'État islamique progressent en Libye et tentent de se déployer plus largement dans la région. Le sud tunisien serait sous la menace directe de cette expansion. Il y a donc urgence à développer une coopération régionale pour l'endiguer, nous dira notre invité, l'ancien ministre et ancien ambassadeur tunisien, Atem Ben Salem. Une brigade chiite sanguinaire en Irak, un rapport pour la paix au milieu d'un combat en Libye, une usine de soda qui ouvre dans une ville de Syrie assiégée, trois informations parmi beaucoup d'autres que nous rapportent les observateurs de France 24 ce mois-ci. À suivre également la rue de presse, regard croisé sur Israël et le monde arabe, avec Christian Brunel à Jérusalem et Alexandre Boutchanti au Caire.
Orion Hebdo sur RFI.
Les conflits au Sahel constituent un risque direct pour l'Algérie, la Tunisie, mais aussi le sud de l'Europe. Les différents trafics, notamment de drogue, la circulation d'armes conventionnelles ou non, les carences alimentaires, les pénuries d'eau, la maltraitance des minorités et l'émergence d'un état de non-droit en Libye sont des menaces clairement identifiées. Pour y remédier, et face à l'avancée des forces combattantes de l'État islamique, il y a nécessité de mettre en place rapidement une coopération régionale renforcée. Pour l'ancien ministre tunisien, Atem Ben Salem, invité à s'exprimer cette semaine à Marseille par l'association Euromed IHEDN, l'Institut des hautes études de la défense nationale, il y a urgence car son pays, la Tunisie, lui paraît être la prochaine cible des islamistes.
La Tunisie est le premier pays menacé. Parce que la Tunisie n'est pas seulement menacée par la situation du Sahel-Sahara, mais par un état charnière de ce Sahel-Sahara, c'est-à-dire la Libye, qui est directement sur la frontière tunisienne et qui est aujourd'hui un véritable sanctuaire terroriste qui croit fermement que la Tunisie, militairement et incontestablement, c'est le maillon faible. L'armée tunisienne qui fait beaucoup de son mieux et qui est en train d'acquérir une certaine expérience, voire expertise dans le domaine de la défense et de la lutte antiterroriste. L'armée tunisienne n'est pas adéquatement équipée. L'armée tunisienne n'est pas assez nombreuse pour pouvoir faire face à autant de, disons, de frontières, parce que nous avons une très longue frontière avec l'Algérie et nous avons une frontière quasi poreuse aujourd'hui avec la Libye. Donc, c'est une armée professionnelle, c'est une armée qui se défend bien aujourd'hui, mais c'est une armée qui a besoin vraiment d'être soutenue, d'être mieux équipée et d'avoir surtout les moyens de prévenir les attaques terroristes, parce que aujourd'hui, le renseignement est peut-être, surtout le renseignement électronique, et peut-être la faiblesse de l'armée tunisienne.
Alors justement, de quoi a-t-elle besoin cette armée, précisément ?
Cette armée a d'abord besoin d'une véritable coopération régionale en matière de défense et de sécurité. Je crois qu'aujourd'hui, le fait que deux grandes puissances régionales comme l'Algérie et le Maroc, deux puissances qui se regardent en chien de faïence, qui ne coopèrent pas, qui ont une frontière terrestre fermée, et pourtant c'est une frontière terrestre qui est vraiment la grande cible terroriste, parce que il y a aujourd'hui une certitude, c'est qu'une partie des terroristes qui ont fui le Mali, le Nord Mali, se trouve aujourd'hui dans les zones plus ou moins contrôlées par le Polisario. Donc le Maroc, les frontières sud du Maroc sont menacées, l'Algérie est directement menacée, et la Tunisie est aujourd'hui face à ce qu'on appelle l'armée de l'État islamique Daesh, qui, paraît-il, se prépare à une véritable invasion de style classique vers le sud tunisien. Et c'est là où réside le grand danger, à mon sens.
Donc à partir de la Libye, actuellement, il y a des pourparlers justement pour regrouper les deux gouvernements ennemis en Libye, celui de Tripoli et celui de Tobrouk. Est-ce que c'est une solution pour essayer de s'en sortir ?
Malheureusement, ce n'est pas la solution. Et aujourd'hui, je pense personnellement que la solution politique négociée n'est pas la panacée. Elle ne résoudra pas les problèmes de la Libye aujourd'hui. Il n'y a plus d'État en Libye aujourd'hui. Il y a non seulement les milices, mais il y a aussi les tribus, il y a les trafiquants et il y a l'État islamique. Ce sont des forces qui convergent des fois sur certains intérêts, mais qui, dans tous les cas de figure, se confronteront dans un avenir très proche. Et ce qui se passe aujourd'hui au niveau de l'État islamique, de l'armée de l'État islamique, de Daesh, ce qui se se passe aujourd'hui est très grave, parce que l'État islamique est en train de prendre le pas, est en train de battre les milices de Fajr al-Islam et d'autres milices tribales libyennes, et de s'incruster, de se rapprocher de plus en plus de la frontière tunisienne et de la frontière algérienne. Aujourd'hui, le vrai danger est là. Nous savons qu'il y a une armée équipée. Il y a dans cette armée à peu près 7000 terroristes, parmi lesquels il y a à peu près 3500 Tunisiens. Ils sont très très bien équipés, malheureusement par des pays frères et amis. Ils sont très très bien équipés et ils se préparent à un coup important au sud de la Tunisie. Ils le feront au sud tunisien parce qu'ils ont l'impression, comme je l'ai dit au départ, que la Tunisie est un maillon faible et que le sud, à cause des problèmes sociaux qui sont aujourd'hui le lot de toute la Tunisie, les gens du sud en Tunisie croient que peut-être leur avenir serait avec Daesh. C'est une erreur monumentale, mais c'est une mentalité qu'on est en train de constater de plus en plus, et ça, c'est un danger qui peut être mortel pour la Tunisie.
Mais que faut-il faire alors ? Coopération de quel type ? Militaire ?
Alors, moi je pense qu'il est de la première urgence d'abord de passer de l'information ou de l'échange d'informations dans le domaine du renseignement à une véritable coopération dans ce domaine. Il y a une urgence absolue à ce que au moins les services de la France, de la Tunisie, de l'Algérie et à notre degré du Maroc aussi, puissent coopérer réellement, c'est-à-dire puissent être présents sur le terrain et puissent avoir aussi les moyens d'une surveillance électronique que malheureusement la Tunisie aujourd'hui n'a pas, mais que la France possède. Donc ça, c'est un aspect essentiel, je dirais urgent. Il y a une urgence de ce point de vue-là, et cette urgence-là, si elle n'est pas mise en place dans les semaines qui viennent, cela risquerait de coûter très très cher. Non pas à la Tunisie, parce que la Tunisie n'est que la première cible, mais aussi à cet espace euro-méditerranéen, la rive nord de la Méditerranée, qui est la rive européenne, et particulièrement la France et l'Italie. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il faut qu'il y ait une mise en place d'un mécanisme d'alerte préventive. Un mécanisme qui serait constitué au moins des trois pays, comme noyau dur, France, Algérie et Tunisie, mais par la suite peut-être s'ouvrir un peu dans un cadre 5+5. Ce mécanisme de prévention devrait se fonder sur une coopération étroite entre diplomates et entre militaires et gens du renseignement. C'est un triptyque qui est essentiel si on veut réussir à analyser, à se concerter et puis à mettre en œuvre une politique de prévention, une politique de lutte efficace contre le terrorisme.
Alors, on parle du Maroc, l'Algérie, la Tunisie, la France et d'autres pays peut-être. Et l'Égypte ?
L'Égypte était, jusqu'à nouvel ordre, était la plus importante armée du Moyen-Orient et du monde arabe. L'effondrement diplomatique, politique de l'Égypte a causé l'effondrement de l'ordre régional arabe. Et c'est une très grande perte pour toute la région. L'Égypte aujourd'hui, l'armée égyptienne en tout cas, est empêtrée dans une lutte à mort contre les terroristes islamistes égyptiens. Est-ce que l'Égypte a les moyens d'une politique, disons, de défense dans la région du Maghreb? Je ne le pense pas, honnêtement. Je le souhaite. Je souhaite que l'Égypte soit intégrée dans un système de sécurité collective dans la région. Mais je ne peux pas dire au jour d'aujourd'hui que l'armée égyptienne sera capable de faire la différence. Cela est possible pour l'armée algérienne et l'armée marocaine, qui connaissent très très bien la région et qui sont aujourd'hui bien équipées pour pouvoir réellement, si ces deux armées coopéraient ensemble avec la Tunisie, je reste très confiant pour une lutte réussie et un succès dans la lutte contre le terrorisme. L'Égypte, c'est un peu loin, et l'Égypte n'a pas aujourd'hui les moyens de sa politique militaire.
Atem Ben Salem, professeur à l'université de Tunis, ancien secrétaire d'État aux affaires étrangères, ancien ambassadeur de Tunisie auprès des Nations Unies à Genève. Des propos recueillis à Marseille lors d'une conférence de l'association Euromed IHEDN qui réunissait des personnalités des deux rives de la Méditerranée. observateurs de France 24 nous envoient chaque jour, tout au long de l'année, leurs informations insolites, humoristiques, décalées ou révoltées. Bonjour Jamel Belaïchi.
Bonjour Eric.
Vous êtes l'un de ceux qui collectent ces informations. Vous en avez retenu trois pour Orient Hebdo, avec celle-ci qui vient de la ville d'Al Ghouta, dans la banlieue de Damas, en Syrie. Al Ghouta, où la population qui manque de tout a érigé le système D en art de vivre.
Tout à fait. Depuis 2 ans et demi maintenant, le régime syrien impose un siège implacable à cette localité tenue par les rebelles de l'armée syrienne libre et empêche la population de s'approvisionner en médicaments et en nourriture. Pour atténuer un tant soit peu ce blocus, un groupe d'activistes se sont récemment lancés dans la fabrication d'une boisson gazeuse. Notre observateur sur place nous a expliqué que ce produit, baptisé Ghouta Dry, était fabriqué avec des moyens très modestes, avec notamment des arômes de pommes, de cola et d'orange dénichés dans des anciennes fabriques de boissons qui sont actuellement à l'arrêt. Et pour faire apparaître les fameuses bulles, les concepteurs ont dû faire appel à des pharmaciens qui leur ont procuré des produits effervescents. Le but de l'opération est aussi d'attirer l'attention sur la situation des habitants qui vivent avec très peu de nourriture et dans la peur constante des bombardements.
Alors une autre information venue d'Irak, cette fois de Jamel, l'Irak où une milice chiite qui combat les djihadistes de l'État islamique s'est récemment illustrée par ses méthodes ultra-violentes.
Oui, cette milice, qui s'appelle les Brigades de l'Imam Ali, est particulièrement critiquée depuis la diffusion il y a quelques jours d'une vidéo sur YouTube montrant les combattants arborant son insigne en train de brûler un homme. Face à la polémique, cette milice a démenti être impliqué dans cet acte barbare. Mais on a du mal à la croire, car en juillet 2014 déjà, des combattants de cette même milice s'étaient vantés d'avoir décapité des djihadistes dans une vidéo tournée dans la région d'Amerli. Malgré ces dérapages, la milice de l'imam Ali a réussi à accroître sa popularité en Irak, et ce grâce à une communication très efficace. Depuis quelques mois, en effet, un des combattants de cette milice, un bodybuilder surnommé Abu Azraïl, littéralement le père d'Azraël, ange de la mort, fait le buzz sur les réseaux sociaux. Il est en permanence accompagné d'un communicant de la milice qui le filme et poste ses images sur YouTube. Ce personnage aux allures de Rambo est devenu tellement populaire qu'aujourd'hui son visage est imprimé sur des t-shirts.
Et puis il y a cette histoire de rappeur combattant qui a tourné un vidéoclip en pleine zone de combat en Libye.
Oui, il se fait appeler Volcano et se bat depuis plusieurs mois aux côtés de l'armée libyenne contre les djihadistes d'Ansar al-Sharia dans Benghazi. Son clip a pour titre C5, du nom d'un lance-missile très prisé par les milices en Libye. Il nous a expliqué que pendant plusieurs jours, il s'était baladé sur les lignes de front, notamment dans les quartiers de Liti et celui de Bouatni, pour tourner ce clip. Un tournage qui n'a pas été sans risque, comme on peut l'imaginer. Il nous a raconté par exemple qu'un jour, il a été surpris par des tirs de sniper. Il est resté plusieurs heures sans bouger, il a été quand même légèrement touché au doigt par des débris projetés par une balle. Les chansons de Volcano sont essentiellement destinées à remonter le moral des troupes, raconter les hauts faits d'armes des militaires et narguer les djihadistes. Pourtant, Volcano nous a confié qu'il n'était pas du tout fan de musique rap, mais qu'il préférait la country music. Il a en fait choisi le rap pour son aspect pratique. Dans une chanson classique, a-t-il expliqué, vous ne pouvez pas placer plus d'une 60aine de mots. Tandis que dans un morceau de rap de 5 minutes, vous pouvez clamer jusqu'à 300 mots.
Des informations et d'autres encore à retrouver sur le site observers.france24.com. Merci Jamel Belaïchi.
Merci Eric.
Nous allons maintenant au Caire et à Jérusalem où nous attendent Alexandre Bouchanti et Christian Brunel pour lire la presse de la semaine. Bonjour Alexandre.
Bonjour.
Bonjour Christian.
Bonjour.
Et si Damas tombait, Alexandre, c'est l'inquiétude formulée par la presse arabe cette semaine.
Oui, une presse qui se fait l'écho de consultations qui ont lieu à Genève par l'envoyé spécial de l'ONU pour la Syrie, Staffan de Mistura. Et selon les journaux, la chute de Damas entre les mains du groupe État islamique est une préoccupation majeure qui a été évoquée par les États-Unis et le Royaume-Uni. Alors selon les journaux, Washington a évoqué la possibilité d'écarter Bachar el-Assad avec une bénédiction russe et de constituer une force de stabilité syrienne composée de 50 000 hommes et formée par les Américains. Alors une force dont la mission sera de préserver les institutions syriennes et la sécurité ainsi que de combattre l'État islamique. Mais selon la presse, cette approche n'est pas partagée par les autres alliés des Américains dont la lutte contre l'État islamique est notamment l'Arabie Saoudite, le Qatar et la Turquie. Des alliés qui estiment qu'un tel scénario implique de donner un rôle prépondérant à l'Iran en Syrie.
Christian Brunel, ce qui fait la une de la presse israélienne cette semaine, c'est un scandale sexuel.
Oui, en effet, les frasques d'Alon Chazan, un député du Likoud, le parti du Premier ministre Benjamin Netanyahou et vice-président du Parlement, ont déclenché un énorme scandale qui fait la une de tous les médias. Tout a commencé par un reportage de la deuxième chaîne de télévision privée qui a révélé qu'Alon Chazan avait été élu le 17 mars, mais qu'avant, il était le patron d'un hôtel casino à Burgas, une station balnéaire bulgare sur la mer Noire. À ce poste, il se serait livré à du proxénétisme en offrant à ses clients les services de prostituées. Alon Chazan aurait également utilisé des drogues dures. Le principal intéressé a tout démenti en bloc en se présentant comme victime, je cite, de délire érotique des médias. Ces dénégations n'ont toutefois pas convaincu. Comment un personnage avec un passé aussi sulfureux a-t-il pu être élu à la Knesset, s'est interrogé le quotidien Yediot Ahronot. La plupart des éditorialistes ont adopté la même ligne et appelé à sa démission en publiant force photos de lui en galante compagnie près d'une roulette de casino.
Alexandre Bouchanti, en parallèle de l'expansion djihadiste sur le terrain, il y a aussi Twitter, selon le journal Al Arabi.
Oui, le journal raconte que les premiers tweets de l'État islamique, il y a 2 ans, semblaient être une sorte de mauvaise blague. Mais on est passé d'un compte à des milliers de comptes appartenant à des djihadistes ou des djihadistes en devenir ou de simples sympathisants. Et chaque fois que Twitter ferme un de ses comptes pour violation des règlements, des dizaines d'autres le remplacent. C'est ainsi que Twitter continue à véhiculer les liens avec le site YouTube où des vidéos de propagande mais aussi d'exécution continuent à sévir. Selon un expert, Twitter est devenu, grâce aux djihadistes virtuels, plus efficace que les armes entre les mains des combattants de l'État islamique car il apporte un précieux soutien extérieur qui se décuple.
Christian Brunel, qu'en est-il de l'affaire Orange en Israël dont nous parlions la semaine dernière ?
Eh bien, tous les médias ont annoncé l'arrivée en Israël de Stéphane Richard, le patron d'Orange, venu s'expliquer et tenter de lever ce qu'il qualifie de malentendu lors d'une rencontre avec Benjamin Netanyahou. Rappelons les faits, Stéphane Richard a déclaré la semaine dernière au Caire que l'opérateur français souhaitait mettre fin à un accord avec Partner, une entreprise israélienne qui utilise le logo et la marque Orange. Stéphane Richard a été aussitôt cloué au pilori et accusé de céder aux appels à boycotter Israël par des ONG pro-palestiniennes. Mais en multipliant les interviews ou les lettres ouvertes dans lesquelles il proclame, je cite, qu'il aime Israël, il a réussi à limiter les dégâts et à convaincre en partie les éditorialistes que son projet obéissait avant tout à des considérations économiques.
Également, Christian, le théâtre a eu droit à l'avant-scène cette semaine.
Oui, la décision de Naftali Bennett, le ministre de l'Éducation, et de Miri Regev, la ministre de la Culture, de supprimer les subventions à 2 troupes de théâtre pour des raisons idéologiques ont suscité un débat passionné. Dans un cas, la sanction visait un acteur qui a proclamé qu'il refusait de se produire dans les colonies de Cisjordanie. Dans le deuxième cas, il s'agissait de punir une troupe qui jouait une pièce écrite par un Palestinien purgeant une peine de prison à vie pour avoir tué un soldat israélien. Le quotidien de gauche Haaretz a fustigé ce qu'il qualifie de censure, alors qu'un éditorialiste du Maariv a expliqué que le ministre avait, je cite, fait œuvre de salut public.
Alexandre, la presse du Caire consacre de nombreux articles à la triche dans les examens du bac.
Oui, une triche généralisée qui a commencé dès le premier jour du bac avec les questions de l'examen d'arabe qui se sont retrouvées sur le net quelques minutes seulement après le début de l'épreuve. Alors, une des pages de triche les plus célèbres sur Facebook a même publié un communiqué qui dictait des conditions pour arrêter de mettre les examens en ligne. Entre autres, exigence que tout étudiant puisse rejoindre sans condition la faculté de son choix. Alors actuellement, ce sont les points que l'on obtient au bac qui déterminent si l'on va faire, par exemple, médecine ou sociologie. Alors reste à savoir quel sera l'impact de cette triche électronique et il faudra attendre les résultats.
Une affaire à suivre. Pour conclure, Christian, une caricature évoque l'affaire Hassan.
Effectivement, dans un dessin publié par le Haaretz, on voit ce député tout sourire entre 2 jeunes femmes dénudées proclamant « Mais non, tout ça, c'est du Photoshop », autrement dit, un montage.
Merci Christian, merci Alexandre. À la réalisation, Mathias Taylor. Vous pouvez réécouter cette émission sur le site de la radio, www.rfi.fr, rubrique émission, ainsi que sur notre page Facebook. Bonne semaine, à samedi prochain sur RFI.